France Inter.
France Inter, Marion Lourd, le 5-6.
Bonjour à toutes et à tous, ravis de vous accompagner en ce petit matin. Au programme, dans les chroniques littorales, la paix pour sauver l'océan, c'est indispensable, selon la navigatrice Marie Dotzenberg, on l'entendra dans un instant. Il sera aussi question de mer dans les petits bateaux à 5h50 avec cette question, les villes en bord de mer peuvent-elles être inondées? La guerre de l'opinion de la Chine continentale contre Taïwan, rencontre avec un influenceur dans le Zoom à 6h moins le quart. Juste après, rendez-vous avec un dépanneur informatique bénévole, il nous appelle de Tours et il sera notre invité déjà debout. Et puis, il faut beaucoup aimer les hommes, sans cela, ça n'est pas possible, on ne peut pas les supporter, écrivait Marguerite Duras. La preuve dans Café Philo, juste avant 6h.
France Inter.
Et on démarre cette journée avec le journal de Raphaël Ben Abdelmoumen, bonjour.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
La France prépare son plan de riposte.
Une réunion d'urgence a eu lieu hier à l'Élysée pour coordonner une réponse à la guerre commerciale lancée par Donald Trump et ses nouveaux droits de douane. 20% de surtaxes pour les marchandises européennes entrant aux États-Unis. Alors qu'ils soient représentants de filières, chefs d'entreprise ou dirigeants d'organisations patronales, plusieurs dizaines d'acteurs économiques avaient rendez-vous autour d'Emmanuel Macron, le président français qui a appelé à suspendre les investissements aux États-Unis jusqu'à nouvel ordre. Comment les participants ont-ils perçu cette proposition? Luc Chemla leur a posé la question à la sortie.
Le sujet crée un certain malaise, à en croire plusieurs réactions à la sortie de l'Élysée. « Si je vous réponds, je vais avoir des problèmes », sourit un participant qui préfère éviter de s'exprimer. Même si la phrase du chef de l'État a été prononcée devant les caméras, Patrick Martin du MEDEF, lui, l'assure.
Il a dit qu'il fallait être à la fois très coordonné, très responsable, mais ne pas tomber dans le panneau, en quelque sorte, d'un repli sur nous-mêmes. Donc il n'a pas dit qu'il fallait suspendre les investissements aux États-Unis.
Du côté de la CPME, Amir Reza Tofighi a manifestement bien entendu l'appel du président et se montre d'ailleurs favorable.
Ce sera le choix de chaque entreprise, mais en effet, si on veut une classe économique qui est unie, si on veut que les entreprises soient unies, il faut que celles qui avaient prévu d'investir aux États-Unis se posent la question de est-ce que c'est le bon moment ou pas d'investir, parce que c'est aussi un acte de patriotisme. À un moment donné où les Américains nous attaquent sur une guerre commerciale, il faut aussi que nous, on ait des armes dans la négociation.
Il faudra regarder les possibilités filière par filière, mais il ne faut rien s'interdire, affirme Alexandre Sobo, le président de l'organisation professionnelle France Industrie.
Il faut qu'on se dote de tous les outils qui amène les Américains à nous écouter, à négocier sérieusement.
Surtout que la France a du poids si on regarde les derniers chiffres du BEA, un bureau d'analyse du département américain du commerce. En 2023, elle était le cinquième investisseur étranger aux États-Unis.
Et le président du MEDEF estime aussi que des centaines de milliers d'emplois sont potentiellement menacés en France. Patrick Martin espère cependant que le président américain sera dissuadé de mettre en œuvre ses droits de douane. La Corée du Sud destitue son président. Décision à l'unanimité de la Cour constitutionnelle sud-coréenne il y a une heure. Yoon Suk-yeol définitivement chassé du pouvoir. Il avait tenté d'instaurer la loi martiale en décembre dernier. Il était suspendu de ses fonctions depuis. Avec sa destitution, une nouvelle élection présidentielle doit être organisée dans les 60 jours en Corée du Sud.
Plus de 3000 morts et 4500 blessés. C'est le dernier bilan du séisme qui a frappé la Birmanie.
Une semaine, jour pour jour, après la catastrophe, les secours ont toujours du mal à s'organiser. Le pays est plongé dans la guerre civile. Il reste fermé aux organisations humanitaires internationales qui travaillent uniquement avec leur personnel déjà sur place. Les représentants de l'ONG CARE, spécialistes de l'aide d'urgence, ont accepté de partager leur expérience de manière anonyme pour raisons de sécurité. Isabelle Labéry a recueilli leurs témoignages.
Une semaine après, impossible de tourner la page. Je revis sans arrêt cette expérience. Le jour comme la nuit.
I didn't feel safe at living in Mandalay.
Je ne me sens pas en sécurité à Mandalay, parce qu'il y a toujours des répliques.
Until now.
Cette salariée de l'ONG veut déménager.
I've been trying to heal my mental and physical shocks.
J'essaie encore de me remettre de mes chocs mentaux et physiques. C'est le pire tremblement de terre qu'on ait jamais connu. Personne n'était préparé.
Personne
non plus n'était préparé à devoir survivre sans eau potable, sans électricité et par 40 degrés.
Une autre membre de l'équipe de Kerr s'est rendue dans un camp improvisé.
Quand je suis entrée dans le monastère, j'ai vu que le campement était complètement éparpillé et désorganisé. On a essayé de collecter des données pour pouvoir distribuer de l'argent, mais ils n'ont aucune expérience des catastrophes et de la gestion des camps. On a quand même identifié 70 foyers à qui on a donné 150 euros chacun pour un mois.
Malgré l'appel lancé par la junte, les ONG internationales sont toujours bloquées à la frontière. Elles demandent aux autorités d'accélérer la délivrance de laissez-passer, faute de quoi l'eau et la nourriture pourraient bientôt manquer.
Isabelle Labéry, et hier, un cessez-le-feu temporaire a été annoncé par la junte birmane au pouvoir pour faciliter le travail des secours.
Aux assises du Rhône, les jurés ont tranché.
Ils ont condamné hier soir l'ancienne employée d'une crèche de Lyon à 25 ans de réclusion criminelle. Elle comparaissait pour avoir empoisonné un bébé de 11 mois dont elle avait la garde, des faits qui remontent à juin 2022. La femme de 30 ans a été reconnue coupable de torture et actes de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La France insoumise et les écologistes côte à côte dimanche à Paris. Avec d'autres syndicats et mouvements politiques, ils invitent à un rassemblement dans la capitale. Un appel de la gauche à ne pas laisser le Rassemblement national occuper le terrain ce week-end, alors que le RN organise un meeting pour dénoncer la condamnation de Marine Le Pen pour détournement de fonds publics. Après Décathlon, Michelin ou encore Auchan, la chaîne de magasins Jiffy est en difficulté. L'enseigne spécialisée dans les articles de maison a annoncé hier un plan de sauvegarde de l'emploi. Sarah Mansoura, la marque prévoit de réduire ses effectifs de 5% et de fermer 11 magasins.
11 magasins n'ayant pas pu être repris ou redressés sont en effet voués à fermer dans le Nord, le Jura, l'Orne ou encore à Lyon et Toulouse. 116 suppressions de postes annoncées. Mais le plus gros coup sera porté au siège du groupe à Villeneuve-sur-Lot. Là-bas, 186 salariés devraient être concernés. C'est un quart des effectifs. Tout un symbole pour une enseigne en difficulté, concurrencée par les magasins Action ou Maxi Bazar, mais également par les plateformes internet, notamment chinoises, et qui connaît depuis 2 ans des pertes financières. Les première depuis sa création au début des années 80. Le groupe de produits Discount a déjà, il y a un an, obtenu le rééchelonnement de sa dette, arraché aussi au forceps à ses banques un plan de soutien financier en janvier dernier, moyennant la création d'un nouveau directoire. Manifestement, cette restructuration financière ne suffit pas pour le groupe qui décide parallèlement d'engager ce que la direction appelle un plan d'urgence, avec notamment une politique plus agressive sur les prix de ses produits.
Les précisions de Sarah Mansoura et puis les mousquetaires Intermarché envisagent la fermeture d'une trentaine de magasins. Magasin ex-casino repris il y a quelques mois. 680 emplois sont menacés. L'équilibre financier reste inatteignable pour ces points de vente, explique le groupe. Une école de Saint-Ouen va bientôt déménager à cause du trafic de drogue. Les parents d'élèves ont voté oui hier à la consultation organisée par la ville de région parisienne. L'école maternelle Émile Zola est située en plein milieu d'un quartier miné par le trafic de stupéfiants. Les enfants s'installeront dans de nouveaux locaux dès la rentrée des vacances. Et puis non pas un, mais 7 albums d'un coup de la légende américaine du rock Bruce Springsteen, un coffret de 83 chansons inédites enregistrées entre 1983 et 2018. L'artiste a exhumé ses titres de ses tiroirs pendant la pandémie de Covid-19, sortie prévue en juin.
Raphaël Ben Abdelmoumen pour le journal, vous revenez dans une petite demi-heure. Raphaël, il est 5h08.
La météo avec Préfonds, l'expertise retraite, épargne et prévoyance de la fonction publique depuis plus de 60 ans. Pour une retraite solide, même par temps incertain. Préfonds.fr.
C'est encore le printemps, Elodie Calac.
Une belle journée de printemps, la douceur s'accentue encore un peu. Ce matin, il fait souvent 4 à 10 degrés du Massif central aux régions de l'Est, 8 à 12 ailleurs. Cet après-midi, quelques degrés de plus qu'hier, 18 à Dinard, 19 à Montpellier, 22 à Cambrai, Tours, Strasbourg, Bordeaux, Marseille, jusqu'à 23 degrés au Havre, à Paris, à Limoges ou à Grenoble. Côté ciel, c'est du bleu toute la journée, des Hauts-de-France au nord-est avec un grand soleil. Ailleurs, le soleil doit composer avec un voile nuageux souvent léger, mais plutôt dense ce matin de la Normandie vers la région parisienne et le nord des Alpes. Un voile épais aussi de l'Aquitaine à l'Occitanie dès ce matin qui va gagner le sud du Massif central, le Berry, la Vendée et le sud de la Bretagne dans l'après-midi. Notez aussi des nuages bas vers l'Aude et les Pyrénées orientales ce matin, quelques averses sur les Pyrénées et les Alpes cet après-midi et encore du vent, un vent d'est sensible au nord de la Loire et un vent de sud-est des Pyrénées au Massif central jusqu'à 90 voire 100 km à l'heure pour le vent d'Othon.
Élodie Calac de Météo France.
France Inter. Marion Lourd.
le 5-6.
5h09 à suivre sur France Inter, des personnalités engagées. La fondatrice de l'école de l'exploration, tout un programme, son portrait dans les chroniques littorales. Et à 6h moins le quart, notre invité déjà debout, dépanneur informatique bénévole. On traversera aussi l'Atlantique, question sur la stratégie du fou dans la chronique d'où ça sort. Et Charline Vanhoenacker explose les faits, elle s'attaque à la suspension des aides au développement américaine à 5h25. Dans un instant donc, les chroniques littorales, mais d'abord deux rappeurs belges pour se réveiller sur France Inter. Caballero et Jean Jass chantent Amy.
Paris Est, y'a des clans et des tribus, transac dans un coin exigu. Des clochards se bagarrent dans les détritus. Dehors c'est hardcore, je reste à la casa. Hier j'ai vu un tox avec deux cuillères comme à la casa. Le peuple a faim, paix à souffrance. Je me sens comme un roi, comment je bois du vin à outrance. Que des crises de munchies, des suppléments cheese. Petit verre de Rémi, éclair de génie comme leur sandwich. Je dois m'en sortir donc je fais en sorte. Je renverse une poubelle jaune, y'a trois rappeurs qui en sortent. Cafard passe par la petite fente, pas par la grande porte. Ils me reniflent sans ce que je transporte. Hey, wax dans les alvéoles, mes cheveux sont coiffés par éole. Prévoyant ces mères de succès, je garde un tas de pré-roll. Je dois faire mon trou là où y'a v'là le pétrole. Avant d'étudier mon style pop des Adderall.
J'ouvre un backcode, j'mets un aimé.
Tous les hops,
de dedans, je le mets dedans.
Smoke.
On m'a dit, tu dois faire une cure comme Amy.
T'es con ou quoi?
Non, je leur dis non, non, non. J'ouvre un backcode, j'mets un aimé.
Un hop, de dedans, je le mets dedans.
No.
No.
De dedans, je le mets dedans.
No. No.
Je le mets dedans.
No. Posé en terrasse, je joue à la vedette. Gamos noir qui passe et shoot par la fenêtre. Tellement chaud avant même de me toucher les balles fond. Je suis bercé par les bruits que les rues de la capitale font. Gros gamin, je propose de t'asseoir et je retourne le tabouret. Rap musique, mon amour, s'il faut, je me tape pour elle. Même si souvent elle est en club à faire la tasse bourrée. On dit Gaba, t'es à ton prime, je réponds ça se pourrait. Non, je rigole, c'est évident. Un petit hit de l'été pour que les filles dansent. C'est bon pour les finances. Couplet de Joule, Gim son refrain, je dis pas non. Olympia et Zénith, laisse tomber un Trianon. Je suis zen comme au Tibet. Tu voulais te mettre dans le bain, mais est glacé, pas moyen que tu t'y baignes. Ce truc c'est pas pour toi, change de voix comme T-Pain.
Change de voix, bitch.
J'ouvre un backcode, j'mets un aimé.
Tous les hops,
de dedans, je le mets dedans.
Smoke.
On m'a dit, tu dois faire une cure comme Amy.
T'es con ou quoi?
Non, je leur dis non, non, non.
No.
J'ouvre un backcode, j'mets un aimé.
Un hop, de dedans, je le mets dedans.
Même pas un cimer, wow. Si c'est comme ça qu'on en finit, c'est comme un cinéaire, wow. Cendre blanche, hein? Big Jean Jass, c'est la frappe.
La frappe.
J'ai trouvé ton vinyle chez Farce et Attrape. Perso, j'ai trouvé très moyen,
nul.
C'est pas peu dire,
hein?
J'passais acheter un cosplay pour la petite.
J'te jure,
faut pas que je me trompe.
La dernière fois,
j'ai eu des petits reproches,
hein?
Avec ma mini liasse, on dirait un livre de poche.
Eh.
Des guettes de Peter Croche, ça danse le robot. Escargot en entrée, très à propos. En plein entretien confidentiel, le serveur m'indique que l'agneau est confit dans le miel.
Wow, wow, wow.
J'écris avec la plume de Nas. C'est d'amis, c'est sold out, y'a plus de place.
Plus de
mon cœur ne bat plus, c'est comme s'il y avait plus de basse.
Plus de basse.
Non, 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 je leur dis non, non, non.
Moi j'avoue, je fume pas, hein. Mais j'ai des G qui roulent des hop en pack. En mode qu'il est tord en quatre, jusqu'à ce qu'ils aient le corps en vrac, mort dans le sac. Rebeu, faut des tonnes de big shake. Si j'étais pas le meilleur, j'aurais jamais drop de mixtape. Arrête de faire le player, t'as pas de go, t'as juste le téléphone. Rose Cameron de Deep Set 1200. C'est pas assez pour que je sorte. Déjà que je mets pas le nez dehors s'il y a une brise de vent. Tu fais que de lancer des pics, tu fais quoi toi? Des prises de sang? Laissez les bitches rebeux derrière, mettez les G's devant. Elle fait la pouffe toute l'année, que des saisons de bitch. Elle veut que je m'occupe d'elle et de son fils, ça me donne de raison de fuir. Elle veut juste un pourcentage, donc elle me fait des avances comme une maison de disques.
J'ouvre un backcode, j'mets un ennemi.
Tous les hops, de dedans, je le mets dedans.
Smoke. On me dit, tu dois faire une cure comme Amy.
T'es con ou quoi?
Non, je leur dis non, non, non.
No.
J'ouvre un backcode, j'mets un ennemi.
Un hop, de dedans, je le mets dedans.
No.
No.
De dedans, je le mets dedans.
No.
No. Je le mets dedans.
No.
Amy.
Amy de Caballero et Jean Jass à retrouver en ce moment en concert dans toute la France. 5h13 sur France Inter, l'heure des chroniques littorales. Bonjour José-Emmanuel Lamarque.
Bonjour Marion Lourd.
Les chroniques littorales du vendredi consacrées à des portraits de gens de mer. Et ce matin, vous recevez une navigatrice engagée.
Alors la personne de Marie Dotzenberg, Marion. Marie Dotzenberg, bonjour.
Bonjour.
Marie Dotzenberg, vous êtes la fondatrice de l'école de l'exploration. Qu'est-ce que c'est l'école de l'exploration ?
Alors, l'école de l'exploration, c'est une école pour explorer le monde depuis la mer, qui est une communauté d'apprentissage, de recherche et d'action dédiée à l'océan, à Saint-Malo, et qui réunit des scientifiques, des artistes, des marins, des gens de mer, des citoyens, des associations pour répondre aux défis liés aux enjeux de préservation de la mer et de l'océan.
Pourquoi l'école de l'exploration ?
L'école de l'exploration, elle est née finalement de la navigation, puisque j'ai beaucoup navigué quand j'étais plus jeune. J'ai remarqué qu'à chaque fois que j'arrivais dans un lieu ou dans un port depuis la mer, je ne voyais pas la même chose et je n'étais pas accueillie de la même manière que lorsque je découvrais des lieux par la terre, que ce soit en Méditerranée, à Marseille, en Bretagne, en Irlande ou ailleurs. Et du coup, l'école est née de l'idée que les hommes et les femmes qui voient le monde depuis la mer voient et connaissent des choses du monde que les autres ne voient pas et que ça a une valeur de partage et de connaissance inestimable. Et puis après, j'ai cheminé. Et aujourd'hui, face aux crises, aux conflits et aux guerres qui sont devant nous, je travaille sur la question de la mer comme construction d'un espace de paix sur Terre. Est-ce que la mer, est-ce que les populations littorales pourraient nous aider à faire en sorte qu'on s'entende sur cette planète et qu'on ne voit pas la mer que comme un espace de militarisation qui, malheureusement, sont des choses qui sont importantes aujourd'hui. Mais est-ce que les hommes et les femmes qui aiment la mer et qui ont l'habitude d'accueillir des peuples d'ailleurs pourraient être des personnes qui construisent plus la paix sur Terre que les autres ?
Marie Dotzenberg, à l'école de l'exploration, vous allez au-delà de la dimension scientifique.
On a beaucoup, beaucoup parlé de la dimension scientifique, des enjeux scientifiques liés à l'océan, pour plein de raisons, par rapport au fait que l'océan se réchauffe. Et tout ça est très important. Et je pense qu'il faut aussi qu'on sache intégrer la dimension spirituelle et culturelle de la mer, qui est extrêmement importante. De toute façon, pour moi, on ne pourra préserver le milieu marin qu'à deux conditions. La première, c'est la paix entre les peuples, puisque le coût environnemental de la guerre est gigantesque et je parle pas du coût humain, social et économique, d'une part. Et on ne pourra protéger aussi la mer que si on le fait avec les populations littorales, avec les peuples qui l'habitent, et non pas contre. Et donc là, ça pose la question de qui a le droit de s'exprimer au nom de la mer, qui a le droit de participer à la préservation du milieu marin. Voilà, c'est des questions qui vont être posées notamment à Nice lors de la conférence des parties sur l'océan pour les initiés qui suivent les questions océaniques, donc en juin 2025.
L'UNOC,
voilà. Et je pense que c'est très important d'arriver à concilier ces différents points ensemble. Je pense que toutes les personnes qui s'investissent dans la protection de l'environnement devraient s'investir aussi dans la protection de la démocratie et de la paix. Ça serait déjà quelque chose d'extraordinaire puisque l'UNOC prévoit d'aborder les questions de biodiversité marine. Je pense qu'on ne peut pas aborder la question de la biodiversité marine à Nice sans aborder la question des migrations humaines en Méditerranée.
Et il y a un appel de votre école de l'exploration.
L'appel de l'école de l'exploration, pourquoi est-ce qu'on embrasse les dimensions environnementales, culturelles, scientifiques, géopolitiques, économiques? C'est pour relier les connaissances, les défis, les enjeux entre eux. Et je pense qu'on est dans un moment d'avoir une pensée séparée, de séparer les humains des non-humains, de séparer la biodiversité marine des hommes et des femmes qui meurent en Méditerranée. Pour moi, c'est une erreur. Et je pense que si on retourne à une histoire qui vous est chère, on peut apprendre beaucoup, en fait, des liens que les hommes et les femmes ont tissés en Méditerranée avec la mer et avec le milieu marin. Et j'aurais une invitation peut-être à ce que les déclarations politiques intègrent bien toutes ces dimensions et que les droits humains soit bien relié aussi aux droits de l'océan.
Merci à vous, Marie Dotzenberg. Un site internet écoleexploration.fr. Bonne journée, Marion Lourd.
À demain, non pas à demain, bonne journée à vous, José Manuel Lamarque. Il est 5h17.
Le 5-6. Sur France Inter.
Et à la une ce matin, une actualité qui semble tout écraser. Ce tsunami tarifaire déclenché par le président des États-Unis, ça ce sont les mots des échos, puisque Donald Trump a décidé d'appliquer des droits de douane qu'il considère comme réciproques à ses différents partenaires commerciaux. Le Monde accuse le coup, analyse le quotidien économique. Les bourses ont nettement reculé et le dollar poursuit son repli. La plupart des pays hésitent à lancer des représailles et s'apprêtent à négocier. Et sous ce titre et ce chapeau, peau des échos, une photo, Emmanuel Macron entouré de ministres et chefs d'entreprise. Le président appelle à suspendre les investissements aux États-Unis, explique le journal. Libération nous montre un Trump vociférant en noir et blanc qui fait tourner un globe terrestre sur son doigt. Le Monde boit la taxe, titre habilement le quotidien. Le même Trump lève le poing en une de la croix. Trump taxe le monde, martèle le journal, qui rappelle qu'avec cette hausse brutale des tarifs douaniers, les États-Unis tournent la page de 40 ans de libéralisation commerciale. La même photo est à la une du Figaro, qui pense déjà au coup d'après. Guerre commerciale, l'Europe cherche la riposte. Les 27 sont divisés, déplore toutefois le journal. L'opinion, elle, pose l'équation, c'est négocier ou riposter, le dilemme de l'Europe. Et le Parisien s'interroge, comment éviter l'escalade? C'est un autre nœud de tension qui fait la une de l'équipe. Après la défaite à Reims le week-end dernier, l'entraîneur de l'OM, l'Olympique de Marseille, a refusé d'entraîner ses joueurs, raconte le quotidien. Eux ont à leur tour boycotté la séance avant de se raviser. Alors pour se changer les idées, pourquoi pas ouvrir un polar? Le Parisien Week-end nous propose un spécial roman policier, crime et engouement. Ou bien prendre la route avec le Figaro Madame qui nous propose, je cite, « l'esprit nomade ». À 5h19, comme tous les matins à cet horaire, un concept expliqué par Cyril Lacarrière. Aujourd'hui, c'est la stratégie du fou. Alors d'où ça sort, Cyril?
C'est à la fin des années 50 que cette notion a vu le jour, d'abord grâce à un certain Daniel Ellsberg, 1959. Si son nom ne vous dit rien, sachez qu'il est considéré comme un des tout premiers lanceurs d'alerte. Il avait donné à la presse près de 7000 pages de documents top secrets sur les mensonges de l'administration américaine concernant la guerre du Vietnam. Cela lui a valu d'être surnommé par Henry Kissinger comme étant l'homme le plus dangereux d'Amérique. Daniel Ellsberg va donc théoriser cette logique de théorie du fou. Il sera suivi d'ailleurs par l'économiste Thomas Schilling.
Mais l'expression, Cyril, on la doit à quelqu'un d'autre.
Oui, à un homme qui s'y connaissait bien, rayon folie, le président américain Richard Nixon. On la retrouve dans un mémoire co-signé par l'assistant du président. L'idée de Nixon, c'était de faire croire aux Russes qu'il était capable de tout, que ce mec, que c'était le mec totalement imprévisible. Que si on l'énervait, il pouvait appuyer sur le bouton rouge et bim, faire tout sauter. Un exemple, en 1969. On est en pleine guerre du Vietnam, Nixon lance l'opération Giant Lance, la lance gigantesque. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des bombardiers nucléaires près de l'URSS juste pour mettre la pression sur Brejnev. On ne sait pas si Brejnev s'est inquiété, mais ça vous donne une idée de ce qu'on entend par cette stratégie ou théorie du fou. C'est la même chose quand Donald Trump dit que la Corée du Nord sera traitée avec, je le cite, « le feu et la fureur ». Et finalement, il ira serrer la main de Kim Jong-un. Alors, est-ce que la théorie du fou, ça peut se transformer en stratégie du faible? Qui se dit fou et qui est vraiment fou? Qui gagne à la fin, le faible, le fou ou le fort? Et le président normal, du coup, il devient quoi dans cette histoire?
Eh bien, toutes les réponses sont dans le replay de Zoom Zoom Zen à réécouter sur le site de France Inter. C'était Cyril Lacarrière dans l'émission de Mathieu Noël. Et tous les deux reviennent à 16h cet après-midi. Il sera question notamment des films noirs des années 70. Dans un instant, l'humour de Charline Vanhoenacker, mais tout de suite, une chanson inspirée par les fêtes paradisiaques, les gens, l'aventure, le plaisir, ça ce sont les mots de l'artiste nigérian Obong Jayar. Son titre, Not in Surrender. Il est 5h22 sur France Inter.
Surrender. I'm getting ready to fly. I'm superhuman, I'm supernova. I burn the candle both sides. Your force is coursing right through my body. I feel the temperature rise. I only want this, this hallelujah. Is wanting open 7 days of the week. Your life is constant, it's never stopping. Just take a second and breathe. Stand.
fly. I'm superhuman, I'm supernova. I burn the candle both sides.
Not in Surrender de Obong Jayar, qui sera en concert notamment en novembre prochain au Trabendo à Paris.
France Inter.
Et à 5h25, c'est l'heure de notre rendez-vous avec Charline Vanhoenacker. Tous les matins, dans le 7-10, elle explose les faits lundi. Gros plan sur la suspension des aides au développement par les États-Unis.
Tout n'est pas perdu, parce que fin février, les ONG ont reçu un questionnaire de l'administration américaine. Si elles répondent bien à une série de 36 questions, l'aide pourrait être maintenue. Et Le Monde détaille quelques-unes de ces questions. Alors, question numéro 15. Pouvez-vous confirmer que votre projet n'est pas un programme qui favorise la diversité, l'équité et l'inclusion ? Bon, déjà là, sous ce critère, la seule asso qui fait du bon boulot, c'est le Ku Klux Klan. Il y a eu une époque, les grands fléaux, c'était la famine, le paludisme, le choléra. Aujourd'hui, c'est l'équité, diversité, inclusivité. Question numéro 22. Votre projet a-t-il un impact bénéfique mesurable pour l'économie américaine ?
Non.
Si. Qu'est-ce que tu réponds ? Oh, bien sûr, c'est vrai, c'est détaillé. C'est un journaliste suisse qui l'a révélé, parce qu'à Genève, bon, bah, vous savez, avec les ONG, et Le Monde détaille ces questions. Voilà, donc mesurable pour l'économie américaine. Qu'est-ce que tu réponds quand tu penses à Action contre la faim ? Oui, nous avons adapté les rations alimentaires. On distribue des Happy Meal. Un burger, un maxi coca, une grande frite. Bon, du coup, là, on remplace la famine par le diabète. Alors, dans l'idéal, il faudrait qu'au bout d'une décennie d'aide à un village somalien, le chef du village puisse acheter une Tesla, c'est sûr. Ensuite, comment votre projet contribue-t-il à lutter directement contre les influences néfastes, dont celle de la Chine ? Eh bien, dans le Happy Meal, on n'a pas mis de jouets, déjà. Et grâce à notre action, il sera peut-être possible d'implanter un atelier Nike dans ce village et faire bosser les enfants somaliens pour concurrencer les enfants chinois. Voilà. Ça, c'est la question numéro 25. À Médecins du Monde, ils ont que ça à foutre, répondre à 36 questions à la con, là. Oui, je suis au courant pour la plaie ouverte, mais pour l'instant, je bloque sur la question 26. Les Médecins Sans Frontières, ils sont plus là pour sauver des vies, mais pour emmerder Xi Jinping, vous voyez. Oui, je vais vous le faire, ce massage cardiaque. Mais enfin, d'abord, dites-moi ce que vous pensez de la Chine. Question 26. Comment votre projet permet-il de lutter contre l'immigration illégale aux États-Unis ?
Non.
Bon, bah si ! Bon, ben là, tous les machins sans frontières, je vous dis, c'est cuit. Voilà. Au début, Trump supprimait les choses par décret. Maintenant, il prend la peine d'envoyer un questionnaire. Question 36, la dernière du questionnaire, donc. Votre projet permet-il aux États-Unis de renforcer leur chaîne d'approvisionnement en minerais rares ? Cette question, je pense que même le cynisme trouve ça cynique. Voilà. Heureusement qu'il n'y a que 36 questions. Sinon, la 37e, c'était « Utilisez-vous les fonds versés pour soigner les gens de l'homosexualité ?» Vous imaginez si en France, on faisait pareil ? En quoi les Restos du cœur permettent à la France de rayonner ? Le concert des enfoirés, peut-être ? La générosité ? Oui, je sais, c'est un gros mot. Certaines ONG concèdent qu'elles sont obligées, la mort dans l'âme, de trier les victimes en trois colonnes, en fonction des urgences vitales. Vert, rouge, orange. Et heureusement qu'il n'y a pas une colonne rose et une violette, hein, en plus, sinon ça ferait vraiment un arc-en-ciel, là, je peux vous dire, là, c'est cuit. Une ONG témoigne dans Le Monde, elle a dû passer au tableau Excel. Colonne archi-critique, colonne ça peut attendre, et colonne, oh, on ne sait pas trop si c'est archi-critique ou si ça peut attendre. Je sais pas. Lequel d'entre vous a le plus faim ici ? Alors si on va par là, l'humanitaire, vous savez, c'est le SAV de la guerre. Washington est prêt à nous vendre de nouvelles guerres et il supprime le SAV. Désolé, votre prothèse de jambe n'est plus sous garantie. Voilà, on dit souvent que les États-Unis sont les gendarmes de la planète, mais il faut reconnaître qu'ils en étaient aussi peut-être les infirmiers.
France Inter. Charline Vanhoenacker a savouré du lundi au jeudi à 9h45 et demain, samedi 19h20 pour Bistroscopie. Dans une poignée de secondes, le journal.
Il y a un mois, Emmanuel Macron appelait les Français à se mobiliser face à la menace russe. Comment ? Allons voir sur le terrain.
France Inter, 13h, Jérôme Cadet.
Ce vendredi, le 13-14 est en direct de la base aérienne d'Istres. Nous verrons comment l'armée de l'air intervient en ce moment pour protéger notre ciel et celui de l'Europe et ce qu'elle peut faire de plus demain et à quel prix.
Le 13-14 de France Inter.
En direct de la base aérienne d'Istres, c'est tout à l'heure.
Il est 5h et presque 29 minutes sur France Inter. Il vient de passer la porte de ce studio. Bonjour Ali Badou.
C'est par magie que je suis entré jusqu'ici. Bonjour Marion.
Et pour nous dire, nous donner un avant-goût du 6-9.
Oui, alors à 6h20, votre premier invité sera Didier Arino, qui est directeur général du cabinet Pro Tourisme. Alors que les vacances scolaires démarrent ce soir pour la zone B, à quoi vont-elles ressembler?
On vous dira tout.
À 8h moins le quart, les droits de douane dans le débat éco. L'Europe peut-elle gagner la guerre commerciale? Ce sera la question que se poseront Thomas Porcher et Dominique Seux. Et dans le grand entretien à 8h20, l'écrivain voyageur Sylvain Tesson sera notre invité. Il publie Les piliers de la mer chez Albin Michel et il viendra nous raconter ses nouvelles aventures.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
France Inter, il est presque 5h30. Le journal Raphaël Ben Abdelmoumen, bonjour.
Bonjour.
Les premières conséquences des nouveaux droits de douane de Donald Trump.
Avec des usines qui s'arrêtent au Canada et au Mexique, le géant automobile Stellantis suspend la production de voitures sur plusieurs sites. Les véhicules fabriqués en dehors des États-Unis sont désormais soumis à une surtaxe de 25%. Les marchandises en provenance de l'Union européenne, elles, prendront 20% de taxes. Parmi les filières françaises les plus touchées, les cosmétiques, les vins et spiritueux ou encore les fromages, les États-Unis sont le troisième importateur de produits laitiers français derrière la Chine et le Royaume-Uni. Alors la politique du président américain plonge une partie de la filière laitière française dans l'angoisse, Mariam El Kurdi.
Quand Rodolphe Lemeunier est sacré meilleur ouvrier de France et champion international des fromagers en 2007, les portes du monde s'ouvrent pour le Tourangeau. L'export lui permet de mieux valoriser ses produits comme le Comté, le Cantal ou encore les fromages de chèvre pasteurisés.
Ça m'a permis de sacrément me développer quand même parce que le marché français n'est pas évident dans le fromage. Il y a quand même des marchands de fromage à chaque coin de rue.
Client numéro 1 à l'international, les États-Unis qui représentent 20% de son chiffre d'affaires. Alors, quel impact des taxes américaines?
On ne sait pas trop si c'est du cas par cas, si c'est pour tout le monde pareil, dans quel cadre et quelle mesure, à partir de quel moment.
Incertitude et déstabilisation de toute la filière, pour qui les États-Unis sont un débouché stratégique et en pleine croissance, souligne François-Xavier Huard, président de la Fédération des entreprises laitières.
Si on arrive à exporter moins sur le marché américain, ça veut dire qu'on a moins de possibilités de valorisation de nos produits et donc moins de perspectives pour nos producteurs dans les territoires français.
Inquiétude partagée par Johan Barbe, porte-parole des producteurs de lait français, car si la collecte destinée à la transformation fromagère baisse,
on peut effectivement craindre qu'il y ait un impact direct sur le prix du lait payé aux producteurs.
Et donc une diminution potentielle des rémunérations.
Mariam El Kurdi pour Inter. La Cour constitutionnelle de Corée du Sud destitue le président. Yoon Suk-yeol avait tenté d'instaurer la loi martiale en décembre dernier. Il était depuis suspendu de ses fonctions. Une élection pour désigner son successeur doit être organisée dans les 60 jours. À Gaza, l'ONU s'interroge sur un potentiel crime de guerre de l'armée israélienne. Réaction à la mort de 15 secouristes et travailleurs humanitaires après des tirs sur leurs ambulances il y a 10 jours. Les Nations Unies réclament une enquête complète, minutieuse et indépendante sur toutes les attaques contre les humanitaires dans l'enclave palestinienne. Le parquet algérien fait appel de la condamnation de Boualem Sansal, annonce hier du bâtonnier d'Alger. L'écrivain franco-algérien de 80 ans a été condamné à 5 ans de prison ferme il y a une semaine.
En France, c'est le début des vacances ce soir pour la zone B.
Vacances de printemps qui vont durer jusqu'au 5 mai pour la dernière zone, avec cette année des prévisions plus optimistes du côté des destinations littorales et de montagne. Les stations de ski enregistrent par exemple 20% de fréquentation en plus par rapport aux vacances de Pâques de l'an dernier, selon France Montagne. Car à certains endroits, l'hiver dure jusqu'à fin avril. Dans certaines stations des Hautes-Alpes ou encore de Savoie, le secteur tire donc son épingle du jeu, Camille Marigot.
Les stations qui enregistrent les taux d'occupation les plus élevés sont celles qui fermeront le plus tard, début mai, là où en haute altitude il y aura encore de la neige, comme à Val Thorens, où l'école de ski embauche 40 personnes de plus pour ses vacances de Pâques.
D'aller chercher autant de moniteurs à l'extérieur, c'est quand même une première cette année.
Vincent Lalanne, directeur de l'office de tourisme de la station, où le taux d'occupation dépasse 67%, 16 points de plus que l'an dernier.
On le voit de plus en plus de gens qui viennent apprendre à skier ou prendre des cours de ski parce que la neige est plus souple, elle est plus agréable, les journées sont plus longues, un peu plus chaudes. mode. Et ça, les clients commencent à l'avoir bien compris, en particulier dans les stations comme Val Thorens.
Le secteur se réjouit aussi du calendrier scolaire aligné sur les dernières semaines d'ouverture. Le Club Med de Tignes, lui, est plein à 96%. Là aussi, c'est plus que l'an dernier, avec une clientèle qui a notamment préféré avril à février. Moïse Chérif, directeur hôtelier au sein de l'établissement.
Ceux qui n'ont pas pu profiter des vacances scolaires de février, où c'est la haute saison, où tout est plus cher qu'ailleurs, bah, ils préfèrent peut-être en effet attendre et puis regarder dernière minute pour venir en avril et profiter du ski et de la neige qui est encore au rendez-vous pour le mois d'avril.
Car même en haut des pistes, les vacanciers vont surveiller leurs dépenses, anticipe France Montagne, en choisissant d'autres activités que le ski ou en allant moins au restaurant par exemple.
Le reportage de Camille Marigot.
Et à quoi vont-elles bien ressembler ces vacances de Pâques? On en reparlera avec notre invité sur France Inter à 6h20.
Et on reste en montagne mais dans les Pyrénées cette fois, avec une bonne nouvelle pour l'ours brun qui poursuit son développement. 96 individus recensés dans le massif l'an dernier, dont 22 nouveaux-nés. Mais l'espèce n'est pas sauvée pour autant, car les ours fondateurs de la population se reproduisent entre eux, ce qui augmente la consanguinité. Les associations demandent donc le lâcher de nouveaux mammifères dans les Pyrénées.
5h34, c'était le journal de Raphaël Ben Abdelmoumen. Bonne journée Raphaël. Et bon vendredi, très doux et ensoleillé, avec un ciel voilé seulement sur un grand quart sud-ouest. Le temps reste sec partout, sauf sur les crêtes de l'ouest des Pyrénées. Le vent d'autan souffle encore assez fort, jusqu'à 100 km/h en rafale sur le Lauragais et le Tarn. La douceur s'accentue, prévoyez 2 à 12 degrés ce matin, 16 à 25 cet après-midi, 16 à Cherbourg, 19 à Perpignan, 20 à Toulouse, 21 à Brest et Biarritz, 22 à Lyon, Lille, Clermont-Ferrand, Strasbourg, Marseille et Tours, et 23 à Paris et Limoges.
Le 5-6 sur France Inter.
Et ça va chauffer aujourd'hui dans la playlist de Mathieu Conquet. Bonjour Mathieu.
Bonjour Marion.
Parce que vous nous parlez du centre de l'enfer, du pandémonium, c'est le nouvel album de Vald.
Qui fait un retour fracassant. Si vous aimez les mots, leur son et que vous avez le sens des paradoxes, avalez Vald.
Avant j'étais pauvre donc j'étais de gauche. Maintenant je paye des impôts. Aïe. Un pied à gauche, un pied à droite. Un pied à gauche, un pied à droite. Aïe. Avant j'étais pauvre, est-ce que c'est que j'étais gauche? Maintenant j'allonge, est-ce que je suis à 3? Un scam à gauche, un scam à droite. Ça fait beaucoup d'escrocs. Imagine 49-3.
Aïe. Philosophe à mi-temps, sociologue au chômage, V, ça laisse à méditer, V, tu ne peux pas l'expliquer, V, j'arrêterai mes idées, V, que l'orteil étiqueté. Si, comme moi, vous aimez les gens qui doutent, les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer,
bel hommage.
Bah oui, vous ne pouvez pas passer à côté de cet album et de ses textes. Plus de 2 ans après son dernier disque, Valentin Ledu, alias Vald, il a 32 ans, revient sans peur et plein de reproches, enfin pour lui-même avant tout, hein. Mon rap, c'est apprendre à s'aimer, à se connaître et s'accepter, se chercher profondément et s'énerver sur tous ceux qui ne se sont pas trouvés. Voilà ce que me disait Val le jour où je l'ai rencontré, des années plus tard. Il ne s'est pas calmé, que des problèmes.
Je suis même pas sûr de voir les pattes, je mets de la crème dans mes pattes, du fromage, du sel et des lardons. T'as capté, je suis pas vegan, je mange des chips avec la pizza, un coca et des fois deux, jamais plus de 666 ml. Je calme tout ça avec une garo, des fois deux et des fois trois, quatre, c'est le vacarme dans ma tête. Et dans mon trevent, je ne veux pas vivre autrement. Je coupe la pisse au jus d'orange. Flapisse, mais je suis violent. Avec moi-même, je me malmène. Ça dit que je me fais pas de cadeau. Comme ça, c'est moi qui me ken pas un autre. Je m'autodétruis, s'y arrive pas. L'un seul OCP rise là. Dans son corps, je fais un peu de sport. Mais je tiens de sec, c'est dérisoire. Je me maquille pour les interviews. Mais je suis déjà mort à l'intérieur. Je vis comme un seigneur. Mais à l'époque, il crânait jeune.
Comme un seigneur, Vald qui revient sur France Inter à l'occasion de la sortie de Pandemonium, son album.
Et Pandemonium, c'est la capitale de l'enfer.
C'est bel endroit.
Et de mes angoisses, comme l'expliquait Vald, invité mercredi dernier dans la matinale de France Inter. Dans cet album, il est beaucoup question d'autodestruction, de perversion, de la mort de sa mère aussi, et de ses sentences, des antidépresseurs encore, dans un morceau qui est complètement bouillon et qui devrait d'ailleurs marcher très fort, je pense, en concert. Et Vald vient d'annoncer justement qu'il ferait une très grosse date cet hiver. Alors le morceau qu'on a choisi sur Inter, c'est Fumer. Du cellophané au céphalé, un titre vraiment fort sur la dépression, l'évasion. On croit, est-ce qu'on croit aujourd'hui, ces jours-ci, et où vont les pensées? Je sais, au fond, Vald.
Je sais, mon crime, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, mon crime, je sais, je sais, je sais, je sais.
prends rien par aux effets. J'ai envie de rien. Mes pensées se remplacent et se balaient. Hey. Du cellophane au céphalé. Tant que ça charge, j'ai oublié ce qu'on regardait. J'parle en cétacé. Jamais un jour à jeun. Jamais un jour à jeun. Jamais un jour à ouais. Jamais. Jamais un jour à jeun. Jamais un jour à jeun. Jamais un genou à terre. Le goût à rien, c'est pas le Covid. Hey, si je suis moins fort que la console, je. Hey, je vais rien faire pour la cause, je. Hey, si je suis moins fort que la console, je vais rien faire pour la cause. Hey, arrêtez de me parler de ça. Demain j'arrête, demain j'arrête, demain j'arrête, demain j'arrête, demain j'arrête.
Demain.
Le monde tourne déjà sans moi, comme il tournait déjà sans moi. Le monde tourne déjà sans moi, comme il tournait déjà sans toi. Et tout me glisse dessus. Façon je retiens rien. Façon j'ai ces des fils de pute. J'peux tous les foutre dans un. J'ai la patience d'avoir la flemme. Ça compte plus vraiment si on m'aime. J'guette un documentaire sur Athènes. Ensuite un débat sur le blasphème. Tout est vague et sans importance. Quand j'y pense, quand j'y pense. Tout est vague et sans importance. Si j'y pense. C'est tellement bon, c'est un coup à ne plus jamais revenir.
Jamais revenir.
T'es bien endormi, vous me fatiguez. Je vais me rendormir,
je vais me rendormir.
C'est beaucoup d'argent pas fait. Chaque studio ils veulent me baffer. Même moi des fois j'y pense. Même moi des fois j'y pense. Je ne sais plus qui je suis, ce que je veux, ce que je crois. C'est toujours dans le même sens. Et sans leur patience sur.
Fumer dans la playlist d'un.
C'est très dangereux pour la santé.
Oui, c'est vrai. Ne fumez pas donc, mais fumez quand même. C'est Vald qui vient d'annoncer un concert. Ce sera le 29 novembre 2025, cette date dont vous nous parliez, Mathieu. Et c'est à la Défense Arena.
Ouais, 45 000 places quand même. Hein. C'est la plus grande salle couverte d'Europe. La mise en vente des places, ça commence tout à l'heure, à 10h.
Et ce soir, 21h, on retrouvera Vald dans Et je remets le son.
Mais bien sûr. Et je vous passerai justement ce morceau Bouillon, et puis avec aussi le nouveau Wet Leg, la BO de Banger, un film très musical qui vient de sortir sur Netflix avec la musique des Too Many DJs.
À ce soir.
À ce soir.
5h41 sur France Inter. Cette semaine, la Chine a mené de vastes exercices militaires autour de l'île de Taïwan que Pékin entend récupérer par la force si nécessaire. Et il n'y a pas que la pression militaire. Le régime chinois tente aussi de diviser la société taïwanaise en utilisant des influenceurs recrutés pour diffuser et défendre la réunification de cette île avec la Chine continentale. Bonjour Nicolas Roca.
Bonjour.
Vous avez rencontré à Taipei un de ces influenceurs qui raconte avoir été un outil de la propagande chinoise.
Oui, il s'appelle Chen Poyuan, il a un visage rondouillet et une vingtaine d'années. Et il y a encore un an, il publiait ce genre de vidéos aux paroles explicites. Les Chinois aiment la paix mais ne craignent pas la guerre, les enfants perdus doivent être de retour. Un rap qui vante les mérites de l'armée chinoise et du Futien, l'un de ses porte-avions. Nous le rencontrons dans son petit studio d'enregistrement. Sur la table, au milieu des canettes de soda, trône une casquette « Make America Great Again ». Désormais de retour à Taïwan, Chen Poyuan assure avoir été victime d'un lavage de cerveau qui a débuté dès son enfance.
Dans le temple que je fréquentais avec ma famille, on nous poussait à voyager en Chine. Là-bas, on allait allumer de l'encens avec des Chinois, faire des visites touristiques. Il suffisait de payer des billets d'avion et on était accueillis à l'arrivée.
Les temples taoïstes et bouddhistes sont un levier important de l'influence chinoise à Taïwan. Plus tard, Chen Poyuan a été invité à étudier dans une université chinoise qui opère sous la direction du Front Uni, le réseau du Parti communiste, pour faire avancer ses intérêts à l'étranger.
Durant cette période, tout ce qu'on nous enseignait, c'était à quel point le Parti communiste chinois était bien, à quel point Xi Jinping est génial, en clair, l'histoire glorieuse du parti. Et quand on explique ça à des jeunes qui ne comprennent pas bien la politique, ce discours commence à infuser inconsciemment. Donc en 2021, j'ai commencé à relayer la propagande du Parti communiste chinois.
Qu'est-ce qui vous demandait de faire exactement le Front Uni ?
Des officiels me disaient « Mais regarde ce qui se passe à Taïwan, regarde ce qui se passe aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe dans le détroit de Taïwan ?» Est-ce que tu peux faire une courte vidéo ou une chanson pour les réseaux sociaux? Et comme ça, je peux critiquer le gouvernement de Taïwan, le parti au pouvoir, les États-Unis. Ils me font faire ces choses et me donnent même de l'argent.
Plusieurs milliers d'euros par vidéo avec un objectif, promouvoir l'unification aux yeux des Taïwanais.
Et désormais, il est passé de l'autre côté et il essaye d'alerter sur l'infiltration de la société taïwanaise par la Chine.
Oui, exactement. C'est son service militaire à Taïwan qui va tout changer. Il découvre la nature autoritaire du régime chinois. Et aujourd'hui, voilà comment il parle à ses abonnés.
Aujourd'hui, on va continuer à gifler en pleine face ces influenceurs taïwanais qui lèchent les bottes du Parti communiste chinois.
Avant d'annoncer son revirement, il retourne une dernière fois en Chine afin de révéler les méthodes du Front uni pour infiltrer la société taïwanaise. En décembre, il sort un documentaire retentissant. On y découvre la création de cartes d'identité chinoises pour des Taïwanais résidant en Chine. Selon une de ses sources filmées dans le documentaire, il serait plus de 100 000 à en avoir une.
Regarde-le, lui, il est Taïwanais, mais il a une maison et une voiture ici en Chine. Il y a 2 mois, ce n'était personne ici. Et en plus, il a une carte d'identité chinoise. Il n'a rien fait pour mériter ça.
Et ces révélations ne s'arrêtent pas là. Chen Poyuan a piégé une membre du Parti communiste chinois en lui faisant croire qu'il compte se présenter aux élections à Taïwan. Elle le pousse, évidemment, à rejoindre les formations politiques les plus favorables à la Chine.
Tu peux aller au nouveau parti ou bien au Kuomintang, le parti conservateur. Mais si tu veux te présenter, il faut rejoindre un parti, pas le faire en indépendant. Et si tu veux une organisation solide pour faire campagne, il faut aller au Kuomintang.
Alors que les scandales sur les infiltrations chinoises se multiplient, le président taïwanais a haussé le ton. Il vient d'annoncer une série de mesures, dont le retour des tribunaux militaires, des enquêtes sur les fonctionnaires avec des papiers d'identité chinois et un durcissement des contrôles sur les voyages des hommes politiques taïwanais en Chine, un pays que le chef d'État qualifie désormais officiellement de force étrangère hostile.
À Taïwan, les influenceurs sont aussi une arme pour la Chine. C'est le Zoom signé Nicolas Roca à retrouver bien sûr sur l'application Radio France.
France Inter, Marion Lourd, le 5-6.
Il est 5h45, c'est l'heure de contacter notre invité déjà debout, dépanneur informatique bénévole. Bonjour Olivier Houvier.
Bonjour Marion et bonjour aux auditeurs déjà debout. Du coup.
Et il y en a, comme vous, puisque c'est vous qui voilà. Nous avez contactés pour participer. Pourquoi vous êtes-vous déjà debout à cette heure-ci?
En fait, j'ai décidé de me rendre utile et de faire en fait l'ouverture d'un café qui ouvre à 6h30 le matin, où je rencontre des gens et où les gens savent que je peux aider en informatique, téléphonie, la domotique, tout ce qui est ces petits trucs-là un peu compliqués. Et donc, je propose mon aide gratuitement. Puisque suite à un problème de santé, je suis inapte au travail. Et donc, voilà.
Inapte au travail, mais c'est un handicap invisible, c'est ce que vous avez expliqué en préparant cet entretien.
Voilà, c'est ça. C'est que il y a une quinzaine d'années, j'ai eu un cancer, des traitements assez lourds qui font que les traitements m'ont rendu handicapé. Et là, quand je vous parle comme ça, ça, on ne s'en rend pas compte parce que
pas
je suis sous morphine et les jours où ça va, ça va. Et les jours où on ne me voit pas au café, on sait que c'est les jours où je dors parce que je suis pétri de douleur et donc on attend que je revienne. Quoi.
Et pourtant, vous le disiez, hein, vous proposez toujours vos services en informatique. C'est important pour vous de rester actif malgré la maladie?
Ah oui, parce que en fait... suite à des problèmes de traitement, j'ai pu être resté dans une chambre pendant 3 ans sans pouvoir faire grand-chose, et à part regarder des murs. Et le matin, quand je me lève, je vais vous écouter. Mais si je veux être actif, et ça me donne une raison de sortir et de me sentir utile, en fait. Ça m'aide à être actif malgré la douleur des fois, et donc les journées passent plus vite et puis on fait des souvenirs, on rencontre des gens et voilà.
À quoi elles ressemblent vos journées, Olivier? Vous dites que vous vous réveillez vers 5h30 et ensuite...
Oui, voilà. Alors, avec les traitements, en fait, là par exemple, cette nuit j'ai pas dormi parce que je suis tout en décalage, donc je dors souvent l'après-midi et un peu la nuit. Mais bon, En général, vers 5h30, je suis réveillé, je vous écoute, je discute avec ma femme parce qu'elle commence tôt aussi, elle est directrice de crèche et infirmière. Et ensuite, donc pour 6h30, j'arrive au café là-bas et puis bah, je discute avec, avec les propriétaires. Là, je les aide dans un dossier d'assurance suite à des problèmes de travaux, par exemple, avec leurs propriétaires. C'est des Chinois, ils travaillent 6 jours et demi sur 7, ils n'ont pas le temps, pas l'occasion, donc moi je passe les coups de fil aux assurances pour eux, j'ai appelé la DIL et le conseil juridique pour eux, etc. Voilà.
Et tout ça, il faut préciser, hein, vraiment vous le faites gratuitement, même si parfois on vous offre quand même des choses en échange.
Oui, voilà, la chose c'est que moi, donc déjà, étant inapte au travail, je ne vais pas en faire une activité. J'aide sur les sites Google pour les commerçants aussi dans le quartier et tout ça. Et tout ça, je le fais gratuitement donc pour deux raisons. C'est que je veux rendre en fait à la société une partie de ce que je coûte à la Sécu, je veux dire. Et mais donc, il y a des gens qui se sentent gênés de ne pas pouvoir me dédommager lorsque j'ai passé 5 heures ou une semaine à faire des récup de données sur un PC qui est mort pour récupérer 162 000 photos d'une personne âgée, par exemple. Vous voyez, ça, c'est quelque chose. Donc, bah, lui, il va me donner des tomates de son jardin, par exemple. Voilà.
Et puis, vous créez une forme de cercle vertueux. Merci beaucoup d'être venu partager votre expérience ce matin, Olivier Houvier, dépanneur informatique bénévole. Vous nous appelez de Tours. Merci beaucoup de nous avoir répondu sur France Inter. Merci. Et bonne journée. Il est 5h50 sur France Inter. Les réponses à toutes les questions des grands et surtout des petits, c'est dans Les Petits Bateaux avec Camille Cronier et ses invités. Et aujourd'hui, Roxane s'inquiète à juste titre. Et coucou les petites curieuses et les petits curieux, climat au programme.
Bonjour, je m'appelle Roxane, j'ai 9 ans et je voudrais savoir si à cause de la pollution, l'eau des mers peut inonder les îles en bord de mer. Merci.
Alors Roxane, je pense que quand tu dis pollution, tu veux dire changement climatique qui provoque la montée des eaux. Donc est-ce que la mer peut inonder les villes qui la bordent ? Valérie Masson-Delmotte, vous êtes climatologue, vous confirmez ?
Oui Roxane, et puis c'est déjà le cas. Donc en fait, les activités humaines, notamment en brûlant du charbon, du pétrole, du gaz, par la déforestation, ont déjà entraîné un réchauffement important et ça a entraîné le fait que l'océan, en se réchauffant, gonfle. Ça a entraîné une perte de glaciers qui va se poursuivre, une fonte plus marquée du Groenland, un écoulement plus rapide de certains secteurs de l'Antarctique. Donc l'eau qui était sur les continents rejoint l'océan et contribue à la montée du niveau de la mer. Donc le niveau de la mer a monté déjà d'à peu près 20 cm depuis 1900. Il va monter d'à peu près autant à horizon 2050, donc c'est extrêmement important de s'y préparer. Au-delà, en fait, ça va dépendre de deux choses. Ça va dépendre d'une part de la quantité de gaz à effet de serre qu'on va mettre et du niveau de réchauffement planétaire, mais dans tous les cas, le niveau de la mer va continuer à monter. On a déjà acté plus d'un mètre de montée du niveau de la mer sur plusieurs siècles. Si on émet beaucoup de gaz à effet de serre, on pourrait avoir une montée du niveau de la mer à la fin du siècle, même proche de 1 mètre déjà. Et ensuite, le principal facteur d'incertitude, c'est la réponse de certains secteurs de l'Antarctique. Ça paraît très loin de nous. C'est une immense masse de glace avec certains secteurs qui peuvent être instables. Et si leur instabilité est déclenchée, alors ça pourrait encore amplifier la montée du niveau de la mer sur plusieurs siècles.
Mais dans tous les cas, un mètre d'augmentation, même si ça ne paraît pas énorme ici, ça va inonder, comme dit Roxane, des villes en bord de mer.
Alors, ce qui va se passer, c'est qu'avec la montée graduelle du niveau de la mer, d'abord ce qu'on va voir, et ce qu'on voit déjà dans certaines régions, c'est une augmentation des inondations chroniques à marée haute. Beau temps, la marée est haute et ça déborde un peu. Donc ça, c'est un enjeu parce que ça va, par exemple, abîmer certains tuyaux, certaines infrastructures. Ensuite, la deuxième chose, c'est lorsqu'on a une grande tempête, on a un phénomène de submersion associé à cette tempête, donc un record de niveau marin. Quand le niveau moyen monte, les records augmentent aussi, donc on l'observe déjà. Et on s'attend à ce que les événements de niveau marin extrême qui étaient très rares dans le passé, une fois par siècle, soit de plus en plus fréquent. Dans certaines régions, ce qui se produisait une fois par siècle, comme niveau très élevé, pourrait se produire quasiment tous les ans d'ici 2050. Et puis, la montée du niveau de la mer, elle va aussi en fait attaquer les endroits fragiles, comme les plages sableuses, et entraîner leur érosion. Et puis, ça entraîne aussi de l'arrivée d'eau salée, parfois dans les réserves d'eau douce, ou bien en remontant davantage dans les fleuves et dans les rivières. Et les enjeux, c'est d'utiliser ces connaissances pour s'y préparer, pour anticiper. Alors d'abord, on a tout intérêt à limiter l'ampleur du réchauffement par rapport au risque de montée du niveau de la mer. Et puis, on a aussi la question de, collectivement, qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre pour protéger les villes qui sont situées au bord de la mer, mais aussi les grands deltas agricoles et les petites îles qui concernent en tout à peu près 1 milliard de personnes.
Voilà donc, une fois de plus, faire du changement climatique une priorité pour tout le monde. Salut les matelots.
Les petits bateaux. Posez vos questions par note vocale sur l'appli Radio France.
Et salut Camille Crenier, rendez-vous ce soir 20h05.
France Inter. Le 5-6.
Et c'est l'heure de votre café philo. Bonjour Patricia Martin.
Bonjour Marion Lourd.
Au programme ce matin, un sujet vieux comme le monde, mais tristement toujours d'actualité, l'oppression des femmes et la violence des hommes.
Vieux comme le monde, oui, mais écoutons ce qu'en a dit Simone de Beauvoir.
Ça remonte à la nuit des temps. Il y a eu un moment, dans la nuit des temps, où la force physique, ça comptait énormément. Les plus forts se sont appropriés les droits, le pouvoir, de manière à avoir également de la prééminence économique, grossièrement pour être ceux qui étaient toujours sûrs de manger. C'était très visible en Chine, par exemple, où il y avait de grande pauvreté, et on laissait mourir, si eux non, on tuait les petites filles, et on empêchait les femmes de participer à la production, de manière à ce que l'homme ait vraiment tout en main. Et ça, je n'ai pas le temps de raconter ici toute l'histoire de la femme, mais il est bien évident que d'époque en époque, il y a eu toujours une volonté des hommes de prendre le pouvoir. Je n'en citerai qu'un exemple. Au Moyen-Âge et dans les siècles, enfin à la Renaissance, les femmes avaient beaucoup de pouvoir comme médecins. Elles connaissaient des quantités de remèdes, des herbes, des remèdes qui étaient des remèdes de bonnes femmes et quelquefois très valables. Eh bien, la médecine leur a été prise des mains par les hommes. Toutes les persécutions contre les sorcières ont été essentiellement fondée sur cette volonté des hommes d'écarter les femmes de la médecine et du pouvoir qu'elles donnent. Et ensuite, alors, au XVIIIe, au XIXe siècle, il y a des statuts faits par les hommes qui interdisent rigoureusement, sous peine de prison, d'amende, etc., aux femmes d'exercer la médecine si elles n'ont pas suivi certaines écoles auxquelles, par-dessus le marché, on ne les acceptait pas. Je pense que si on prenait d'autres domaines, on trouverait tout à fait les mêmes processus. Il y a donc en effet une volonté, et maintenant cette volonté n'est peut-être plus de prendre, mais c'est en tout cas une volonté très 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 forte de garder. Il y a des barrages qui se font partout lorsque les femmes veulent accéder à certaines qualifications ou à certains pouvoirs.
Et la volonté de garder le pouvoir. Évidemment, tous les hommes ne se retrouveront pas dans ce portrait, autrement dit, ils ne sont pas tous comme ça. Il n'empêche, cette réalité-là a la vie dure et les faits sont têtus. Il y a, comme qui dirait, un bain culturel. Alors, il est un procès qui a fait la une des médias, c'est le procès Pellicot. Est-il nécessaire d'en rappeler les faits? Je ne crois pas. C'est un procès sur le mal et un procès ordinaire en même temps. La philosophe Manon Garcia l'a suivi, elle en a tiré de multiples réflexions consignées dans un essai, au nombre desquelles on retiendra que oui, il est nécessaire de voir la réalité en face et que non, il ne s'agit ni de nourrir une haine pour les hommes, ni de regretter d'être née femme.
On ne regrette pas, nous, Patricia. On se souvient de ce qu'a dit Gisèle Pellicot lors de ce procès. La honte doit changer de camp.
Oui, il faut continuer à se battre. Hein. C'est précisément ce que pense Manon Garcia.
Manon Garcia qui sera ce soir votre invitée dans l'heure philo vers 20h10. Son essai formidable s'intitule « Vivre avec les hommes, réflexion sur le procès Pellicot ». Il est publié aux éditions Climat. Vous recevrez aussi la romancière Louise Chenevière, autrice d'un livre publié chez POL intitulé « Pour Britney ». On parle donc de Britney Spears, la chanteuse, et aussi de Nelly Arcand, deux femmes symboliques d'une oppression sexiste. À ce soir, Patricia.
À ce soir, Marion.
Bonjour, c'est Mishka Assayas. Ce samedi, à l'occasion de la date anniversaire de la mort de Kurt Cobain, je vous raconte l'histoire derrière l'album live MTV Unplugged in New York de Nirvana. Un concert en chambre où le chanteur semblait déjà faire ses adieux.
Mishka Assayas raconte Nirvana.
Rendez-vous ce samedi à partir de 21h sur Inter.
5h58.
La météo
avec Préfonds, l'expertise retraite, épargne et prévoyance de la fonction publique depuis plus de 60 ans. Pour une retraite solide, même par temps incertain. Préfonds.fr.
Un temps beau et doux, Élodie Callac.
Une journée douce et ensoleillée, du soleil sur une grande partie du pays, parfois tamisé par un voile nuageux. Ce voile nuageux est dense ce matin sur le sud-ouest et de la Normandie vers l'Île-de-France et le nord des Alpes. C'est bien nuageux sur le Roussillon. Cet après-midi, c'est des Pyrénées vers le sud de la Bretagne, le Berry, le Languedoc-Roussillon que les nuages d'altitude seront les plus nombreux. Quelques averses possibles vers les Alpes et les Pyrénées. Ailleurs, beaucoup de soleil. Le vent d'est est sensible encore au nord de la Loire. Des Pyrénées au Massif central, le vent de sud-est persiste jusqu'à 90 voire 100 km à l'heure pour le vent d'autan. Les températures sont très douces. Ce matin, comptez 4 à 12 degrés et cet après-midi, vous aurez 18 à 23 degrés le plus souvent.
Élodie Callac de Météo France.